Guerre et paix. Deuxième partie, chapitre 1, scène 3. Le lendemain matin, ayant pris congé du vieux comte, il partit sans voir les dames. Au mois de juin, le prince André, en revenant chez lui, traversa de nouveau la forêt de bouleaux. Les clochettes de l'attelage y sonnaient plus sourdement que 6 semaines auparavant. Tout était épais, touffu, ombreux. Les sapins dispersés çà et là ne nuisaient plus à la beauté de l'ensemble, et les aiguilles verdissantes de leurs branches témoignaient d'une manière éclatante qu'eux aussi subissaient l'influence générale. La journée était chaude. Il y avait de l'orage dans l'air. Une petite nuée arrosa la poussière de la route et l'herbe du fossé. Le côté gauche du bois restait dans l'ombre. Le côté droit, à peine agité par le vent, scintillait tout mouillé au soleil. Tout fleurissait, et, de près et de loin, les rossignols se lançaient leur roulade.
« Il me semble qu'il y avait ici un chêne qui me comprenait, »
se dit le prince André en regardant sur la gauche et attiré à son insu par la beauté de l'arbre qu'il cherchait. Le vieux chêne transformé s'étendait en un dôme de verdure foncée, luxuriante, épanouie, qui se balançait sous une légère brise aux rayons du soleil couchant. On ne voyait plus ni branches fourchues, ni meurtrissures. Il n'y avait plus dans son aspect ni défiance amère, ni chagrin morose. Rien que les jeunes feuilles pleines de sève qui avaient percé son écorce séculaire. Et l'on se demandait avec surprise si c'était bien ce patriarche qui leur avait donné la vie.
« Oui, c'est bien lui !»
s'écria le prince André, et il sentit son cœur inondé de la joie intense que lui apportait le printemps et cette nouvelle vie. Les souvenirs les plus intimes, les plus chers de son existence, défilèrent devant lui. Il revit le ciel bleu d'Austerlitz, les reproches peints sur la figure inanimée de sa femme, sa conversation avec Pierre sur le radeau, la petite fille ravie par la beauté de la nuit, et cette nuit, cette lune, tout se représenta à son imagination.
« Non, ma vie ne peut être finie à 31 ans. Ce n'est pas assez que je sente ce qu'il y a en moi, il faut que les autres le sachent. Il faut que Pierre et cette fillette qui allait s'envoler dans le ciel apprennent à me connaître. Il faut que ma vie se reflète sur eux et que leur vie se confonde avec la mienne. »
Revenu de son excursion, il se décida à aller en automne à Pétersbourg et s'ingénia à trouver des prétextes plausibles à ce voyage. Une série de raisons plus péremptoires les unes que les autres lui en démontra la nécessité. Il n'était pas même éloigné de reprendre du service. Il s'étonnait d'avoir pu douter de la part active que lui préservait encore l'avenir. Et pourtant, un mois auparavant, il regardait comme impossible pour lui de quitter la campagne. Et il se disait que son expérience se perdrait sans utilité et serait un véritable non-sens, s'il n'en tirait pas un parti pratique. Il ne comprenait pas comment, sur la foi d'un pauvre raisonnement dénué de toute logique, il avait pu croire jadis que ce serait s'abaisser, après tout ce qu'il avait vu et appris, de croire encore à la possibilité d'être utile, à la possibilité d'être heureux et d'aimer. Sa raison lui disait à présent le contraire. Il s'ennuyait. Ses occupations habituelles ne l'intéressaient plus, et souvent, seul dans son cabinet, il se levait, s'approchait du miroir, se regardait longuement. Reportant ensuite les yeux sur le portrait de Lise, avec ses cheveux relevés à la grecque, en petites boucles sur le front, il lui semblait que, sortant de son cadre doré, et oubliant ses mystérieuses et suprêmes paroles, elle le suivait des yeux avec une affectueuse curiosité et un gai sourire. Souvent, il marchait dans la chambre, les mains croisées derrière le dos, fronçant les sourcils ou souriant à ses visions confuses et décousues, à Pierre, à la jeune fille de la fenêtre, au chêne, à la gloire, à la beauté de la femme, à l'amour qui avait manqué à sa vie. Lorsqu'on venait à le déranger pendant ses rêveries, il répondait d'une façon sèche, sévère, désagréable, mais avec une logique serrée, comme pour s'excuser envers lui-même du vague de ses pensées intimes, ce qui faisait dire à la princesse Marie que les occupations intellectuelles desséchaient le cœur des hommes.